Dans les rues de Londres, il y a à peu près un an, circulaient des bus sur lesquels était marqué en grand « Attendez-vous à un choc ». Il est beau mon bus, hein ? Sur lequel était marqué en grand, il n'y a... Alors, j'ai été obligé de restreindre un peu la phrase. Il n'y a probablement pas de Dieu. Je pourrais vous la dire en anglais, mais vous allez vous boucher les oreilles. Maintenant, arrêtez de vous faire du souci et profitez de votre vie. Et puis, après Londres, il y a eu Barcelone, Milan, Montréal, Amsterdam. L'origine de cette campagne semble être une jeune femme, une actrice britannique, Ariane Sherin, qui a voulu répondre à des panneaux publicitaires du même genre qu'elle avait vu sur les mêmes bus et qui était financée par une campagne chrétienne avec une organisation anglaise. Alors ça, je vais vous le dire en anglais, ça s'appelle Jesus Said, Jésus a dit, qui promettait l'enfer aux gens qui n'acceptaient pas Jésus. En réponse à cette campagne qu'elle avait jugée quand même un peu agressive dans sa formulation, elle a demandé à tous ceux qui voulaient réagir de lui envoyer de l'argent. Et cette campagne a été relayée par les journaux anglais et par la BBC, ce qui montre au passage que les médias ne sont pas neutres. Elle espérait recueillir 6 000 euros et sa campagne en a rapporté 150 000. Ce qui finalement se trouva à la tête d'une quantité importante d'argent, elle a imaginé, avec l'Union des athées et des agnostiques anglais, d'utiliser ces panneaux sur les bus. Alors la première question que cela me pose, qu'est-ce que cela dénote sur la façon dont les non-chrétiens voient les chrétiens ? Ils les voient déjà comme des gens qui se font du souci et comme des gens qui ne profitent pas de la vie. Alors déjà, ça me pose problème, mais ce n'est pas tellement là-dessus que je voudrais m'arrêter ce matin. C'est surtout, que penser d'un tel slogan ? Il n'y a probablement pas de Dieu qui peut dire une chose pareille. S'il y a un Dieu, il est obligatoirement tellement plus grand que nous qu'il ne nous est pas perceptible, ou plutôt que nous ne pouvons percevoir de lui que ce qu'il veut bien nous laisser paraître. Les scientifiques s'imaginent qu'ils savent tout. Pourtant, ils ont de la peine à décrire déjà la création. Même pour décrire seulement l'univers, ils ont de la peine. Vous savez, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, que les astronomes reconnaissent qu'ils ont perdu 96% de leurs affaires. C'est-à-dire qu'on ne connaît que 4% de la matière de notre univers. Et que les 96% restant, on ne sait pas ce que c'est. On l'appelle la matière noire. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui perd 96% de ses affaires ? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de fiable ? Pour ma part, il me semble que plus on s'intéresse à la nature, moi c'est plutôt la biologie, mon côté, hein. Mais même l'astronomie, la physique des particules, plus on est étonné de la complexité croissante de tous ces mécanismes et de la façon dont tout cela s'articule ensemble, plus on se rend compte que tout cela dénote une formidable intelligence, une volonté créative et non pas un hasard. Et je ne suis pas le premier, je ne suis pas le premier à le dire. Le rédacteur du psaume 92 dit « Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel. J'acclame les œuvres de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Combien profondes tes pensées. L'homme stupide n'y connaît rien. L'insensé n'en a aucune compréhension. » Et Paul avait écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 1er, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair. Dieu le leur ayant fait connaître. Depuis la création du monde, les œuvres, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car ils connaissent Dieu. Ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Il me semble que ça dépeint assez bien une certaine science. Je dis une certaine, elle est peut-être majoritaire. Une prétention à tout connaître, à tout comprendre, et avoir un jugement définitif sur les choses. Pourtant, s'il y a une chose que l'histoire de la science nous apprend, c'est qu'elle s'est souvent contredite, et que souvent ce qu'on a tenu comme étant la vérité pendant longtemps, un beau jour, on a trouvé que c'était une erreur ou une approximation, et on a cherché des choses, une vérité autre. Les philosophes ne peuvent utiliser que la pensée humaine. Ils en sont fiers, mais elle n'est qu'humaine. Comment la pensée d'un être fini tel que moi, qui est contenu dans une petite boîte comme ça, pourrait comprendre un être infini? La confiance de l'homme dans sa propre intelligence confine souvent à l'arrogance. Là encore, Paul avait parlé de ceux qui, de son temps, pensaient posséder la sagesse. À cette époque, les grands penseurs, c'étaient les Grecs. Et Paul, dans ses voyages, s'est trouvé confronté à ces penseurs grecs. Et il écrit aux Corinthiens et il souhaite, c'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, qui nous dit ça, il souhaite que la foi de ceux à qui il écrit soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, dit-il, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Un peu plus loin, verset 9, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Et nous en parlons, verset 13, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Les hommes jugent donc avec leur pensée qui est limitée. Mais comment pourraient-ils connaître les pensées de Dieu, sinon en se penchant sur ce que Dieu a bien voulu révéler de lui particulièrement dans la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Jean, dans son évangile, nous dit « Personne, personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus-Christ nous l'a fait connaître. » Personne, savant, penseur, philosophe, ne peut prétendre prouver qu'il n'y a pas de Dieu, ni même de dire il n'y en a probablement pas. Déjà, David, dans deux de ses psaumes, le 14 et le 53, commence les psaumes en disant « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Mais supposons qu'on puisse dire « Allez, il n'y a pas de Dieu. » Mais il continue la phrase « Arrêtez de vous faire du souci et profitez de votre vie. » Imaginez, vous êtes dans un avion, en pleine tempête, en plein volcan islandais. Vous êtes secoué dans tous les sens. Vous apprenez qu'il n'y a bientôt plus de carburant. Vous venez d'apprendre qu'il y a des terroristes à bord qui veulent faire sauter l'avion. Et tout à coup, l'hôtesse vous tape sur l'épaule et lui dit « Mais arrêtez de vous faire de soucis, il n'y a pas de pilote. » Est-ce que vous pensez que vous serez vraiment rassuré? Mais s'il n'y a pas de Dieu, mais dépêchez-vous de vous faire du souci. Quel est votre avenir? Quel est notre avenir s'il n'y a pas de Dieu? Notre avenir sur terre, une terre qui a de plus en plus de peine à nourrir ses enfants? Une terre, une nature sur laquelle nous aurons bientôt prélevé tellement de ressources, beaucoup plus que les générations qui nous ont précédés? Nous sommes la première génération à nous rendre compte que nous épuisons notre planète et qu'elle n'est pas inépuisable. Bientôt, nous manquerons de pétrole, d'eau, de cuivre, de fer, de phosphate, de nourriture. Quel est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants? Si notre monde survit encore le temps de notre vie, quelle sera celle de nos enfants, de nos petits-enfants? On sait aussi ce qui se passe lorsque les ressources commencent à se raréfier. C'est que ce sont les plus puissants qui s'en emparent. Ça veut dire la guerre. Si notre terre se réchauffe, quelles seront les conséquences pour les générations futures? Personne ne le sait. Et puis pour quelque chose de plus prosaïque, de plus quotidien, chaque année qui passe, nous augmentons la facture que devront payer nos enfants. Mais ceci de façon phénoménale. Rien que le déficit 2009 de la Sécurité sociale, 60 milliards d'euros, juste pour une année. Ça veut dire que rien que pour une année, chaque Français, même nouveau-né, doit 1 000 euros, chacun de vos enfants doit 1 000 euros à la Sécurité sociale, enfin, à l'État, à ceux qui ont prêté de l'argent, 1 000 euros de plus que l'année dernière, où il devait déjà une somme conséquence. Arrêtez de faire vous du souci, ils disent. Et puis ils nous disent aussi, profitez de votre vie. Mais quelle vie? Le métro, boulot, dodo? Le conflit avec l'employeur, la menace du licenciement, le travailler plus pour gagner rien du tout? C'est cela la vie dont il faut profiter? Sur un graffiti parisien, il était marqué cette phrase « Existe-t-il une vie avant la mort ?» « s'échiner chaque jour si cela ne sert à rien, si c'est totalement sans intérêt. Puisqu'il n'y a personne à part nous, disent-ils. Personne qui nous aime, personne qui nous accompagne. Cela va plutôt nous pousser au suicide qu'à profiter de la vie. Et la vie éternelle, comment en profiter s'il n'y a pas de Dieu ? Pensez-vous que votre vie va simplement s'arrêter comme quand on éteint la lumière ? Si les promoteurs du bus athée étaient honnêtes et logiques, ils auraient dû écrire « S'il n'y a pas de Dieu, les hommes ne peuvent compter que sur eux-mêmes. » Et ça va être dur, très dur. Comment peut-on penser que l'absence de Dieu peut aboutir à l'absence de soucis ? Moi, je vous propose un autre slogan. Pour les chrétiens jeunes et moins jeunes, Dieu existe et nous le croyons. Confions au Seigneur tous nos soucis et profitons de la vie qu'il nous donne. Nous le croyons parce que sa création rend témoignage à son existence. J'entendais l'autre jour à la radio un savant, certainement athée, qui disait « Moi, il y a quand même une question qui me travaille. Pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose alors qu'il ne devrait rien y avoir ?» Nous le croyons aussi parce qu'il nous a prouvé son existence en envoyant Jésus, après l'avoir annoncé dans tout l'Ancien Testament, cette venue, et il est venu. Nous le croyons parce que son esprit parle au-dedans de notre cœur et témoigne de son existence. Nous le croyons aussi par le témoignage de ceux qui nous ont précédés, les apôtres, mais aussi les chrétiens des générations antérieures. Nous le croyons parce qu'il n'y a pas d'alternative, pas d'autre issue pour notre monde et pour nous-mêmes. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, dit l'Épître aux Hébreux. Ne nous faisons donc pas de soucis, notre vie avec toutes ses incertitudes est dans sa main. Le destin de notre monde est dans sa main. Et si ce monde va à sa perte, à plus ou moins grande échéance, cela ne nous étonne pas puisque Dieu nous a prévenus depuis longtemps. L'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître au chapitre 3, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. » Les corps célestes seront détruits par le feu et la terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà ce que nous attendons. Non pas une survie bancale de notre planète, plus ou moins rafistolée de façon temporaire, mais un nouveau ciel, une nouvelle terre. Voici. « Je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. » Qu'est-ce qui donne de la valeur à notre vie, à notre travail ? C'est de le faire pour le Seigneur. Martin Luther King avait écrit ceci, « Il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l'humanité a de la dignité, de l'importance. Il doit être donc entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. » Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait, ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer la rue si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront un jour pour dire « Ici vécut un grand balayeur de rue qui fit bien son travail. » C'est une belle pensée. Mais Paul disait déjà, l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, il disait aux serviteurs « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, en sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Profiter de la vie, c'est goûter celle que Christ nous donne. Moi, je suis venu, dit-il, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Il précise aussi la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Profitons de la vie éternelle, la vraie vie, celle qui est en abondance, celle qui commence au moment où l'on se donne à Christ et qui ne s'arrête jamais. Le verset qui est ici dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Il n'y a pas longtemps qu'il est écrit. On inaugure notre nouveau panneau d'affichage et Pierre-Yves m'a demandé « Est-ce que tu... » pense à un verset qui irait avec ton message, parce que les lettres, on peut les changer hein, facilement. Et c'est donc tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 11, c'est le passage où Jésus va ressusciter Lazare. Et je vous lis un petit passage. Jésus lui dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Ce qui, d'ailleurs, pour une Israélite de ce temps-là, était une foi déjà impressionnante. Jésus lui répondit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Et vous, croyez-vous cela? Dieu existe et nous le croyons. Confions au Seigneur tous nos soucis et profitons de la vie qu'il nous donne.